France Inter. .fr.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Égalité, fraternité, défense des humiliés de la vie, république sociale, État qui protège les plus vulnérables, candidature de conciliation et de réconciliation. Vous auriez pu prononcer le discours d'Evry ?
Peut-être aurais-je été aussi plus crédible en prononçant un discours comme celui-là que Manuel Valls.
Ah, c'était pas crédible?
Non, je pense que, quelle que soit la sincérité des intentions du candidat Manuel Valls, ses intentions de candidat contredisent ses actes de Premier ministre. Et je pense que sa candidature est sans doute la plus clivante qui soit aujourd'hui au Parti Socialiste, à raison des choix qu'il a faits, des mots qu'il a prononcés, les mots de Munich à l'endroit de Madame Merkel sur la question des réfugiés, les mots sur la déchéance de nationalité, les mots sur le Burkini, et surtout les actes posés notamment à travers la loi travail, une loi qui non seulement a inversé la hiérarchie des normes, mais rendu beaucoup plus vulnérables les salariés français. À raison de ces actes-là, sa candidature est clivante aujourd'hui.
Le candidat Valls sait parler la gauche, mais il n'a pas été un premier ministre de gauche?
Écoutez, il a eu des ministres dans son équipe qui ont fait des politiques de gauche.
Oui,
et tout n'est pas à jeter dans le bilan ni du président de la République sortant, ni du Premier ministre. La réalité, c'est que si aujourd'hui nos électeurs sont si déstabilisés, s'ils ont l'impression d'avoir perdu leur gauche, c'est qu'ils ont constaté que nous avions abandonné la question sociale, que nous avions abandonné la question des services publics, la question justement de l'État protecteur, ou en tout cas nous n'avons pas apporté assez de soins à ces questions-là, nous contentons de politiques ou défensives et certainement pas... De penser par exemple ce que doivent être les nouveaux services publics. Il me semble que plutôt que de réfléchir à la manière dont on réduit le nombre de fonctionnaires, ce qui est le cas de la droite revancharde de François Fillon, qui est très revancharde sur ces questions-là, pour ce qui concerne la gauche, à part les administrations prioritaires, nous n'avons pas été très ambitieux en matière de services publics. Moi je pense que quand on regarde aujourd'hui les besoins des jeunes actifs, un service public de la petite enfance qu'on ne construirait pas comme on les construit jusqu'ici, c'est-à-dire une administration, un guichet, un fonctionnaire, mais avec la volonté de trouver des solutions adaptées aux besoins des familles, notamment des mères isolées. Mais un service public de la petite enfance, ça pourrait être un objectif louable d'une politique de gauche.
En tenant ce discours, Benoît Hamon, en qualifiant cette candidature de clivante, vous donnez raison à Manuel Valls, non pas au candidat, mais au Premier ministre, celui qui disait que les gauches étaient irréconciliables. Alors, elles sont conciliables ou irréconciliables?
Mais elles sont parfaitement réconciliables.
Ah bon?
Elles sont parfaitement conciliables.
Le candidat a raison.
Non, mais je dis que, de ce point de vue-là, il faut regarder qui a théorisé les gauches irréconciliables. C'est Manuel Valls. Et d'ailleurs, avec, symétriquement, un partenaire. Jean-Luc Mélenchon, qui lui ne conçoit pas travailler un jour avec le Parti Socialiste, pas davantage que Manuel Valls ne conçoit travailler avec les écologistes et le reste de la gauche. Donc nous avons deux personnes qui ont méthodiquement tapé sur le même clou. Et aujourd'hui, une fracture existe incontestablement dans la gauche. Moi, je prétends que sur la question du modèle de développement et du rapport que nous voulons avoir à la croissance. Moi, je fus croyant, je ne le suis plus. Je ne pense pas aujourd'hui que courir après quelques déciles de croissance, quand cela se paye au prix de la destruction de notre écosystème, de la biodiversité, de la planète, et au prix de la remise en cause de nos droits sociaux, je ne pense pas que ce cap sur la croissance soit bon pour notre pays. Je pense que sur la question du travail, de la souffrance au travail, du surmenage qui est celui de nos compatriotes, et du fait qu'on perd sa santé au travail, il y a aujourd'hui besoin de reconstruire une offre politique qui peut là aussi rassembler la gauche. Puis enfin, la démocratie, sur le fond. Constatons quoi? Que la Ve République, aujourd'hui, elle ne permet pas à la démocratie de respirer, que les citoyens, et ça a été le cas lors des 2-49-3 qu'a décidé Manuel Valls, se sont sentis dépossédés d'une forme de capacité à choisir ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, et notamment pour leur travail, en l'occurrence quand il s'agissait de la loi El Khomri. Donc voilà, moi je pense que sur ces questions, la démocratie, le modèle de développement, ce qui associe le progrès économique et l'écologie, mais aussi le rapport au travail, en lien notamment avec la révolution numérique qui va raréfier le travail, il faudra donc penser à son partage. Sur ces questions-là, les passerelles, elles sont nombreuses, la gauche peut se réconcilier, si tant est qu'on ne la laisse pas à Jean-Luc Mélenchon d'un côté et à Manuel Valls de l'autre.
Cette orientation écologique et anti-productiviste, si je vous ai bien entendu, Benoît Hamon, c'est ce qui vous distingue d'Arnaud Montebourg aussi?
Écoutez, c'est en tout cas mon projet. Peu importe de qui cela me distingue.
Je
demande à être jugé sur ce projet.
Vous avez un peu le même positionnement. Vis-à-vis de Manuel Valls, je ne voulais pas faire remarquer, mais au début de l'interview, exactement les mêmes phrases qu'Arnaud Montebourg hier soir.
En tout cas, moi j'ai un projet. Et sur ce projet, je prétends aujourd'hui que continuer à dire qu'il faut faire de la croissance pour atteindre le plein emploi, même si cette croissance, ça se traduit par des choix politiques, des choix industriels, des choix économiques qui sont dangereux pour notre environnement, je ne veux pas faire ce choix-là. Et je considère aujourd'hui que nous devons réfléchir à un objectif qui vise à baisser le chômage, par le partage du temps de travail, qu'il faut penser cela parce que c'est le seul moyen d'atteindre un objectif qui est un objectif de plein emploi. C'est donc mon choix politique et je le proposerai à nos compatriotes. J'observe aujourd'hui qu'il rejoint les préoccupations de beaucoup de jeunes actifs. Et ces jeunes actifs, ils demandent quoi ? Ils constatent que le travail salarié sera moins important, qu'ils auront des carrières beaucoup plus hachées, que la protection sociale qui est la leur ne leur permettra pas justement de faire face à ces carrières moins linéaires. Eh bien, ils veulent des protections. Ils veulent des protections comme en ont eu leurs parents et leurs grands-parents, qui avaient pour eux l'État-providence et la sécurité sociale, et dont ils ont sentiment, parfois, que ses parents et ses grands-parents exigent maintenant qu'on démantèle l'État-providence. Eh bien, moi, je pense que ces jeunes générations, ces actifs, qui sont aujourd'hui les forces vives de notre pays, aspirent à du service public, mais qui correspondent à leurs besoins, à des protections sociales qui correspondent à leur vie concrète, et c'est autour de ça qu'on doit construire des réponses à gauche.
Sur l'Europe, sujet abordé par Bernard Guetta il y a un instant, est-ce qu'il faut que la France pèse davantage pour faire évoluer les règles actuelles de l'Europe, ou est-ce qu'il faut se détacher de cette Europe? Là encore, je vous renvoie aux positions de d'Arnaud Montebourg.
Ou d'autres. Oui. Moi, je ne suis pas pour la stratégie de la vaisselle cassée. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je ne la trouve pas sérieuse sur le fond. Et mon objectif, comme responsable politique...
Vaisselle cassée, c'est l'expression employée par Montebourg.
Oui, et d'autres. Parce que je considère aujourd'hui qu'il faut bâtir des alliances. Bâtir des alliances, ça suppose que à gauche, et pas simplement au sein de la gauche social-démocrate, bien mal en point dans toute l'Europe, nous mettions d'accord sur ce que pourrait être un agenda européen, sur l'harmonisation fiscale, de façon à ce qu'on arrête de se faire de la concurrence fiscale entre pays, et ça se traduit par une baisse des recettes fiscales, et aujourd'hui une concurrence qui va au détriment de nos intérêts économiques, sur la question de la convergence sociale, comment peut-on faire harmoniser nos différents modèles sociaux de façon à protéger ce que sont nos préférences collectives. Qu'avons-nous de commun avec les États-Unis ? La démocratie et le marché, qu'avons-nous de différent ? Un haut niveau de service public et un haut niveau de protection sociale. Comment le protège-t-on ? C'est de surcroît qu'on l'on pose avec ces partis de gauche étrangers, ces pays, la question du libre-échange. Moi, il me semble que prioritairement, il faut remettre en cause et suspendre la mise en œuvre du CETA, ne pas signer le TAFTA et se méfier de tout ce qui contribue à libéraliser encore davantage les services. Sur ces questions-là, un agenda politique est possible, mais il faut des alliés. Parce que quand Tsipras s'est trouvé seul face à la Conseil de l'Union, quand il s'est trouvé seul face à la Commission européenne, c'est parce qu'il n'y avait justement eu aucune stratégie d'alliance et de travail en commun des partis de gauche. C'est valable pour Paul Magnette quand il a résisté le Wallon au CETA. Ils étaient seuls, isolés. Eh bien, c'est d'abord cela qu'il faut reconstruire, une gauche européenne. Et ainsi, je pense qu'on pourra réorienter la construction européenne plutôt que de croire ou d'imaginer que par un repli à l'intérieur des frontières nationales, il y aurait là un paradis ou je ne sais quel paradis perdu.
Avant de feuilleter la presse avec Hélène Jouan, je reviens une minute sur Manuel Valls. Vous avez grandi dans le même creuset, Benoît Hamon, celui du rocardisme. Qu'est-ce qui vous reste de... Vous en parlez moins que Manuel Valls, mais qu'est-ce qui vous reste, vous, de Michel Rocard ?
Une critique féroce du capitalisme qui avait été celle de Michel Rocard. Le choix d'un modèle de développement respectueux de l'environnement, l'aspiration profonde à ce que le progrès économique soit conciliable avec le progrès social. Tout ça, je le retiens de Michel Rocard comme je retiens une leçon de lui. Le choix systématique de la démocratie. Alors, ça n'a pas été facile quand il était Premier ministre, il est lui-même passé par 49-3. Je me souviens que Manuel Valls avait utilisé cet argument, oubliant qu'il n'avait qu'une majorité relative. Mais profondément, Michel Rocard était un homme qui faisait confiance à la démocratie, c'est-à-dire l'intelligence collective. Moi, je m'inspire de cela, mes choix politiques n'ont pas toujours été les mêmes que les siens, mais incontestablement, ces leçons étaient précieuses dans ma jeunesse militante, et elles continuent à irriguer ce qu'est mon projet politique aujourd'hui.
Et un dernier mot, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu responsable aussi de cette candidature Valls, si vous n'aviez pas fait pression avec Arnaud Montebourg pour dégager Jean-Marc Ayrault de Matignon au printemps 2014, on n'en serait peut-être pas dans cette situation politique.
Je pense que, avec ou sans Benoît Hamon, avec ou sans François Hollande, avec ou sans qui que ce soit, Manuel Valls aurait été candidat à l'élection présidentielle.
Ah oui.
Je pense que c'est un projet qu'il nourrit depuis très très longtemps. La preuve, c'est sa deuxième candidature, je vous le rappelle. Il a déjà été candidat
oui,
une fois.
Primaire, effectivement, du PS, qui était celle de 2011. Voilà, 2011, il avait fait un peu plus de 5% des voix. Manuel Valls, qui vient d'arriver à l'Élysée, nous dit l'AFP, pour remettre sa démission et celle de son gouvernement. On vous tient au courant, et dans un instant, la revue de presse.